Jusqu'ici, tout va bien ? De Marie Collot aux éditions Alice Jeunesse. Septième partie. 2h16. Avec les idées les plus pourries, on obtient parfois des résultats surprenants. Grâce à Christy, spécialiste des cœurs brisés, en moins d'une heure, on arrive à ça. Amel, c'est la première fois que j'écris une lettre d'amour, et sûrement la dernière. Mes sentiments, j'ai pas l'habitude d'en parler, et les mots, je les aime que dans les poèmes de Rimbaud. Je t'ai déjà montré son bouquin sur le banc, où on s'asseyait tous les deux. Une saison en enfer, tu te souviens ? Rimbaud, il a dit des trucs qui déchirent, genre « on n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Moi, je dis « on est très con quand on en a 15 ». C'est moins joli, mais tout aussi vrai. Toutes ces lignes, c'est pour m'excuser. Le titre de notre histoire n'est pas encore écrit sur la couverture et tout est déjà terminé. Je sais que c'est de ma faute si on en est là, toi et moi. Tu me connais. Je n'arrive pas à rester calme longtemps et après, je le regrette. Aujourd'hui, plus que jamais. Parce que moi, je t'aimais. Je l'ai mis au passé juste pour la rime. Cette lettre, c'est pour te répéter que depuis toujours, je suis fou amoureux. Tu mérites le meilleur. Je suis du genre fidèle et obstiné. Tu t'en fous peut-être, mais je te promets que je vais essayer de m'améliorer. Si un jour tu changes d'avis, je serai toujours là. Dans l'immédiat, je t'attendrai à midi sur notre banc, sans plus me cacher, promis. Alors si tu as envie de discuter de tout ça, n'hésite pas. Voilà. Je n'ai jamais autant écrit de phrases à la suite. C'est quand même une belle preuve d'amour, je trouve. Joseph. Christy est fan de notre lettre et de ses passages un peu poétiques. Elle répète qu'elle donnerait n'importe quoi pour en recevoir une aussi belle. La connaissant, elle paierait en nature pour quelques mots d'amour. Elle se lève pour relire une dernière fois à haute voix ce qu'on a écrit ensemble. C'est son moment star de ciné et je rigole. À nous deux, on pourrait monter une petite entreprise. Christy et Loulou, une équipe au grand cœur qui transforme vos déclarations d'amour en réalité. Jamais de la vie. Ça cartonnerait. Pourquoi t'es pas d'accord? Faudrait d'abord l'appeler Joseph et Christy. Oh, est-ce que t'es égocentrique? Alors, c'est oui? Non. Comme tu veux, Makai. Tu rates quelque chose, je te jure. Pendant que Christy rassemble ses produits de beauté dans une trousse de toilette, je me concentre pour réécrire ma lettre sur la feuille la moins chiffonnée qu'elle a dénichée. Je suis crevée. Écrire, je n'ai plus l'habitude. Alors, au dodo. Ouais. On se pelotonne dans la couverture qui sent la lessive à la lavande. Ouf. Tu es sûre que tu ne veux pas pour Christy et Loulou ? Sûre. T'es pas drôle. Christy, je dors là. Ouais ? Et tu m'expliques comment tu parles en même temps ? J'ai des super pouvoirs. Ah ouais, je connais. Moi, je fais des bisous magiques. Elle m'en colle un sur le front. Bonne nuit, Makai. Bonne nuit. Faites vos rêves. Toi aussi. Merci. Christy, ça suffit maintenant. Elle est paumée. Son lit, elle ne l'utilise jamais pour dormir. Alors cette nuit vide d'un corps pour la serrer, elle essaie de la remplir avec des mots doux.
Avis de recherche. Nom, Joseph Jedrzejczyk. Âge, 15 ans. Taille, grand. Poids, au moins 40 kilos. Physique, pas vraiment de cheveux. Caractère, râle beaucoup et sourit parfois. Si vous voyez mon frère, prévenir Ludmila à l'école des Marolles ou étage 8 du bloc A des Hirondelles. Pas la police. Récompense 32,45 €. Merci.
7h30. Une jolie poitrine, ça rend tout de suite très convaincante. un peu comme un « s'il vous plaît » ou un flingue sur la tempe. Le gros Patrice, il ne chicane pas quand Christy lui demande de me conduire aux Hirondelles avant de monter sur l'autoroute. Il comprend qu'il n'a pas le choix s'il tient à la mettre dans son pieu. Elle, tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, c'est pas touche. Le type me scanne avant que j'entre dans sa berline gris métallisée. C'est un maniaque. La couleur de sa bagnole est assortie à ses cheveux et il ne voudrait pas que je salisse la moquette avec mes baskets dégueu. Tout le contraire de ses chaussures cirées. Rien qu'à son allure, ça se voit qu'il est chiant. Son pull ressemble de près à celui que Christy m'a filé. Affreux. Elle aussi, elle l'a remarqué, et elle a une envie folle de se foutre de ma tronche. Elle se retient et enchaîne les sourires pour remercier son client de m'avoir embarqué. Mon chauffeur range la valise de Christy dans son coffre pendant que je m'installe sur la banquette arrière. Sa caisse sent le propre. Trop. Il a planqué des sapins parfumés partout pour cacher son odeur de transpiration. Il démarre à une vitesse qui va bien avec son âge. Ça promet d'être long. La radio diffuse une musique que mon arrière-grand-mère devait kiffer. Christy a enfilé son rôle de pro et j'ai du mal à la reconnaître. L'autre, il m'observe dans son rétro. Il me prend pour un petit merdeux. Le petit merdeux que je suis, en fait. Aux Hirondelles, il y a de l'animation à chaque étage. Au 8e, la cuisine est allumée. Ma mère, debout en peignoir, sert son premier café à mon père et lui prépare son thermos. Dans notre chambre, Ludmila fait son lit et y aligne sa clique de nounours, puis s'en va petit déjeuner avec une brioche sortie du four. Ces matins-là, je les ai vécus tant de fois que leur odeur envahit mes narines. La fenêtre d'Amel est aussi éclairée. Elle est sortie de ses couvertures et de ses rêves où je ne suis pas. Peut-être qu'elle enfile son jeans ou qu'elle se maquille. Peut-être qu'elle chantonne avec sa jolie voix et qu'elle a déjà oublié mon nom. Quand les premiers flocons de l'hiver s'écrasent sur son pare-brise, le gros Patrice me marmonne un « au revoir » alors qu'il n'a pas ouvert la bouche une seule fois. Il attend ce moment depuis mon entrée dans sa bagnole. Christy lui touche le bras pour lui demander de patienter. « Ça va aller, Makai ?»« À l'aise. »« T'es sûr ?»« Certain. » Mes mots ont la conviction qui manque au fond de moi. Sur le trottoir, Christy me serre contre elle. Pareil que dans une scène d'adieu des mauvais téléfilms que ma mère mate à la télé. « Tu rentres chez toi, hein ?»«
Ouais, ouais. »
Je l'ai convaincue de ne pas m'accompagner jusque-là. J'ai juré craché qu'elle pouvait me faire confiance. Tant mieux si elle croit aux éléphants roses. Elle me colle un énorme bisou qui me laisse une trace de rouge à lèvres en souvenir. « T'as mon numéro ?» Je sors sa carte de visite du blouson en cuir qu'elle m'a donné. Comme le reste, il est trop large mais il tient chaud. C'est l'essentiel. Une pluie de neige s'abat sur mes épaules. Et n'oublie pas de garder la clé de ta porte blindée. Cette nuit, Christy m'a déballé sa théorie sur le fait de se protéger, ni trop, ni trop peu, etc. Elle a joué à la psy, histoire de se consoler d'avoir raté sa vocation. Elle ne maîtrise pas le jargon, mais elle m'a donné des conseils qui m'ont moins pris la tête que ceux des pros. Je m'y connais en rendez-vous sur canapé. On m'a forcé à y aller et à y retourner. Soi-disant que mes problèmes s'arrangeraient en parlant à des gens payés pour m'écouter. Au moins, avec Christy, c'était gratos et j'ai eu des fous rires en bonus. Adios, Makai. Je lui tends la boîte à chaussures d'Héro qu'elle dépose à son tour sur ses genoux. Elle m'a promis d'enterrer mon chaton dans le plus bel endroit qu'elle visitera au cours de son trip de charme. Et je sais qu'elle, elle ne ment pas. Après un rapide scan des environs, je traverse le square en trottinant et je me dirige vers le bloc C dont la porte abîmée reste ouverte, peu importe la saison. Du hall, je dis au revoir de la main à cette femme assez optimiste pour penser que je lui obéirai. Et je grimpe, patientée, sur le palier du premier. Christine s'en ira que si je disparais de sa vue. Près de la fenêtre, j'attends que chaque minute lui confirme mon retour à la maison. Enfin, la berline démarre. Pile au moment où mon père quitte l'immeuble d'en face avec le sac à pique-nique qu'on lui a offert pour son anniversaire il y a quelques années. 7h54. Va falloir être discret. De mon poste, j'observe ce quartier où les potes de Raja m'ont interdit de revenir, où j'ai vécu le meilleur et le pire. le square aux poubelles trop pleine, les paraboles comme de gros furoncles sur les façades, la palissade couverte de tags où, Darius et moi, on a dessiné des gribouillis à la bombe. Et je mets fin à cet instant nostalgie pour surveiller la porte du bloc A. À 8h tapante, Amel sortira. Je connais son emploi du temps, évidemment. Et son itinéraire. L'amour, c'est plus efficace que la sonnerie d'un réveil. La semaine dernière, je l'ai accompagnée chaque matin au collège. C'est le seul créneau qu'on avait trouvé pour que ses frères ne nous fassent pas chier. Pendant qu'il pionçait, on marchait côte à côte en rigolant et je lui effleurais la main. On s'arrêtait à la boulangerie et je lui offrais des pains au chocolat. Leurs miettes se réfugiaient dans son écharpe, les chanceuses. Quand elle me lançait « À plus tard, Joseph !» mon cœur bondissait comme une balle magique. Si elle accepte de lire ma lettre, il sera dans le même état. Je la tire de ma poche en me répétant ce que je vais dire. J'ai travaillé mon entrée en matière avec Christy, histoire qu'Amel m'enfonce pas mon papier dans les narines. C'est censé donner ça. 1. Je marche discrétos derrière elle. 2. J'arrive à sa hauteur et je l'appelle. 3. Avec un sourire timide, j'enchaîne. Je sais que tu ne veux plus me voir, mais avant de te laisser tranquille, je voulais te donner ça. 4. Je dépose ma lettre dans sa paume douce comme un doudou et je laisse ma main sur la sienne. 5. J'annonce d'un air solennel, « Amel, tout dépend de toi. » Et puis, elle hausse les épaules et elle sourit. Et puis. Stop. Pas de plan sur la comète, même si Christy m'a assuré que c'est le scénario le plus probable après une déclaration. Et que je préfère la croire pour trouver le courage de la prononcer. « 8h07. Dans la vie, on devrait toujours penser aux exceptions. Quand Amel pointe le bout de son nez, elle n'est pas seule. Ma sœurette la tient par la main et elle papote tranquillou. Ludmila porte son bonnet et son écharpe mauve, ses grosses bottes fourrées et son nez rouge des jours glacés. Elle marche vite et le temps que je me décide à les rejoindre, il ne reste que leurs empreintes dans la neige. Quand je les rattrape, mes baskets sont mouillées. Encore. Amel ! Ma frangine se retourne la première. Elle se rue sur moi et me saute au cou.
Joseph, tu n'as plus disparu ?
Je lui fais un bisou.
Maman a dit que tu finiras par l'enterrer et papa est encore plus fâché que d'habitude et la police est venue plein de fois, même que maman était toute rouge et que c'est des affaires d'adultes qui ne me regardent pas, mais tu sais, moi, j'ai écrit des annonces.
Mila, du calme. Elle m'attrape par le bras et m'amène jusqu'à Amel qui ne partage pas sa joie de me revoir.
Et Pauline, son papa, il est puni, et il paraît que c'est de ta faute, et que si ça se trouve, après, il pourra plus s'occuper d'elle. Alors elle est triste, et moi aussi. C'est vrai, dit ?
Les questions de ma sœur, c'est pire que les interrogatoires de Dumoustier. Je ne sais jamais quoi répondre. Ses yeux déçus me désarçonnent, et envoient valser la vérité comme les mensonges. Te tracasse pas, Mila.
T'es gonflée, toi.
La voix d'Amel est aussi froide qu'un hiver d'une année.
Comment tu veux qu'elle se tracasse pas? Tu fous la merde et après, faut pas s'inquiéter? Tu te casses, puis tu reviens, cool, mine de rien?
Des flocons s'écrasent sur le papier quadrillé où mes mots d'amour s'effaceront bientôt. Avec mes cernes et mes fringues de ringard, je ressemble à un taré sorti de l'asile. Au mieux, à un dépressif trop jeune pour l'être. Pas à un Roméo. Je suis là pour toi, Amel.
Et moi alors?
C'est pas ce que je voulais dire, Mila.
Viens, Ludmila, tu vas être en retard.
Amel avance sans que ma frangine lui emboîte le pas.
Je veux rester avec Joseph. J'ai promis à ta mère de te déposer à l'école pendant qu'elle allait au commissariat. Non.
Ok,
je suis sûre que ton frère sera ravi de s'occuper de toi.
Le ton d'Amel est moqueur, et comme d'habitude, elle ne gaspille pas sa salive en au revoir. Attends, j'aimerais que tu lises ça. Je lui tends ma lettre qu'elle prend comme un vulgaire dépliant acheté dans la première poubelle.
Sérieux? Qu'est-ce que ça va changer, Joseph?
Plein de trucs.
C'est trop tard. T'as dépassé les bornes. T'as tout le monde au cul. Les flics, le juge, mon frère, ton père.
C'est un bon récapitulatif.
Je rigole pas.
Elle fourre mon papier dans la poche de sa veste.
Yes. Rien ne changera si toi, tu changes pas. Tout dépend de toi.
Cette phrase, c'était à moi de la placer.
8h23. On rentre à la maison, Joseph ?
Non, tu dois aller à l'école.
C'est pas juste. Pourquoi tu vas jamais, toi ?
Parce que... Ma sœurette m'envoie une grimace. Cette réponse de grand la gave autant que moi à son âge. Tu veux devenir comme moi ? Elle se tait. Et je l'embarque sur mon dos pour la conduire jusqu'à la grille où je l'ai attendue des tas de mercredis. Bonne journée, Mila. Dans la cour, c'est bataille de boules de neige et glissade à gogo.
Joseph, qu'est-ce que tu vas faire, toi ?
Je sais pas.
Tu seras là ce soir ?
À ma tête, elle comprend que ce n'est pas le programme.
Tu vas continuer tes conneries, c'est ça ?
Je me marre. Elle a de ces expressions parfois. Allez, file, c'est pas tes affaires.
Tu parles comme maman.
Elle boude et je n'ai pas de bonbons dans mon blouson pour lui remonter le moral.
Pourquoi tu reviens pas chez nous ?
Je peux pas, c'est trop compliqué.
Tu connais le chemin, c'est pas compliqué. Les problèmes de Madame Vinciane, ça c'est compliqué. Faut beaucoup réfléchir et compter sur sa feuille de brouillon. Si on s'est trompé, c'est pas grave. Faut recommencer et demander de l'aide plutôt que s'énerver. Elle t'a pas appris ça, ta madame à toi ? Tu devrais essayer. Lulu ! Lulu !
Ma frangine m'embrasse et file rejoindre Pauline qui l'appelle. Ludmila dépose son cartable et entame direct une choré avec sa copine. Elle rêve de devenir chanteuse-danseuse et de gagner l'Eurovision, et d'être coiffeuse et infirmière. Pour elle, tout est encore possible. La cloche sonne et elle court se placer à la tête du rang. Une première de classe. Elle connaît tout sur tout, elle pose des kilos de questions et y répond elle-même. Trop forte en vérité. Personne ne comprend d'où elle tient son côté intello. Pour la charrier, je lui dis qu'ils se sont trompés de bébé à la maternité. Alors elle me tape sur le bras. J'adore ça. Les enfants s'installent à leur banc et le silence inonde le préau recouvert de dessins à la craie. Chaque jour, il se remplit de bonshommes, d'arc-en-ciel et de marelles supplémentaires. Près du mur, il y a un nouvel oiseau avec des ailes trop petites pour s'envoler. Un peu comme moi. La phrase de Ludmila me colle au crâne autant que mon pantalon trempé aux jambes. Si je ne bouge pas d'ici, on me mettra bientôt une carotte à la place du nez. Je me remets en route, sans choisir de destination. À deux pas de chez moi, je suis perdue comme un clébard abandonné sur le bas-côté. Sans le courage de partir, ni de rentrer. Sans l'envie de me cacher, ni de me rendre. Juste celle de revoir Amel. De l'aide, il n'y a qu'elle qui puisse m'en donner en mettant sa main dans la mienne. La neige recouvre la grisaille des hirondelles. Partout, du blanc. Du blanc. Du blanc plus blanc que le linge de ma mère. Moi, je suis habituée au béton, pas aux couleurs claires. À force, je vais me niquer les yeux ou mourir gelée. Il me faudrait un abri avant que les flics recommencent à patrouiller, avant que Raja et ses potes se réveillent. Ils ne sont pas amnésiques et pas aussi sympas que Madame Vinciane. Par contre, notre voisine de palier est gentille comme une mamie Walt Disney. Je la croise sous le pont alors qu'elle revient du marché, avec son foulard en plastique sur les cheveux et son énorme cabas. Elle le bourre à fond, même si elle est censée le monter au 8e. C'est une optimiste. Elle compte sur les gens du quartier pour l'aider. Et comme souvent, son pari est réussi. Je tombe à pic.
Ah, mon petit Joseph, tu es revenu ?
Bonjour, Madame Larry. Elle me fourre ses courses dans les mains.
Avec cette neige, les roues patinent. Merci, merci.
C'est parti pour une séance de muscu et de radotage au milieu des flocons qui continuent de tomber.
Regarde-moi ça.
Elle soupire en me montrant le nouveau tag sur le mur du rez-de-chaussée. C'est écrit « Happy ». Comme quoi, certains ont de l'humour. Au moins, ça décore. Je dépose le sac sur son paillasson.
Entre, tu es trempé comme une soupe.
Dans mon état, ça ne se refuse pas. Et chez elle, personne ne viendra m'emmerder. Bonjour, monsieur. Dans le salon, son mari lit le journal, installé dans son fauteuil roulant. Il m'ouvre celui d'hier à la page « Faits divers » où, dans un encart, je découvre le résumé de mon braquage raté avec Darius. Je rougis.
Tu diras à ta maman que j'ai tricoté de nouveaux chaussons pour elle.
Madame Larry me les désigne,
sur la commode où trône une collection incroyable de cadres de ses petits-enfants. Chez nous, des photos, on n'en a pas des masses. Et celle à quatre remonte à l'époque où il me manquait les dents de devant. Elle m'entraîne dans sa cuisine en me racontant des anecdotes sur chacun des petits. Elle range ses provisions et je ne l'écoute qu'à moitié. Son sac à main est grand ouvert sur la toile cirée et son dos tourné. Une seconde suffirait. Je lutte contre mes réflexes de jeune malfrat, comme l'a écrit le journaliste. Quelques billets ne résoudront pas mes problèmes, et elle ne le mérite pas.
Joseph, un thé ou un chocolat chaud ?
Un chocolat chaud, madame.
Et toi, Pichou ?
Elle verse du lait dans un poêlon, coupe une tablette de chocolat en morceaux, et une odeur de malade se répand. Mes narines explosent de bonheur. Je pose mes fesses sur la petite fenêtre pour siroter ma tasse brûlante en observant ce couple qui totalise plus de 150 ans d'âge. Ils vivent ensemble depuis des siècles, mais ils sont encore assez amoureux pour partager ces quelques mètres carrés chaque jour. Un coucou sort d'un chalet suisse atroce pour annoncer qu'il est 9h. De l'autre côté du couloir, une clé tourne dans la serrure et une porte claque.
Ta maman est là.
9h36. J'attends sur le palier. J'hésite. J'écoute le bruit de son pas dans l'appartement, le sifflement de la bouilloire électrique. Bien sûr, je pourrais pousser la porte, rassurer ma mère, lui montrer que je suis vivant et que je compte bien le rester. Bien sûr, je pourrais déballer des excuses et des promesses. Bien sûr. Je dévale les escaliers à grandes enjambées pour fuir ma lâcheté. On ne se change pas en un jour.